Bonjour. Aujourd'hui, voici la première de nos rediffusions de l'été, une émission consacrée à Christophe qui avait été diffusée le 28 novembre 2015.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Monsieur,
comme voulez-vous, scolastique.
Le bon pied que vous avez demandé pour réfléchir n'attend plus que vous, monsieur.
Ah, j'arrive.
Hâtez-vous, monsieur, ne laissez pas refroidir comme d'habitude.
J'arrive, scolastique, oui. Il n'y a rien de tel qu'un bain.
Mais attention, monsieur, mais attendez au moins que je vous avance la chaise pour vous asseoir.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. La vie est un tissu de coups de poignard qu'il faut savoir boire goutte à goutte et, je le dis hautement, pour moi, le coupable est innocent. Je me hâte de vous rassurer, mes chers auditeurs, ce propos magnifique n'est pas de votre serviteur. Il est sorti des lèvres de Maître Bafouillet, l'immortel défenseur du sapeur Camembert, au cœur de l'œuvre de Christophe. L'œuvre de Christophe, dont je veux célébrer aujourd'hui, puisque nous avons encore droit à l'allégresse, l'admirable actualité. Je le ferai après Raymond Queneau, qui en a écrit ceci. Comme tout grand écrivain, Christophe est prophète. En croyant peindre une société passée ou présente, il dessine les linéaments d'une société à venir. C'est de nos jours que d'innombrables familles fenougards parcourent le monde. Le savant Cosinus, qui stupéfia tellement sa servante scolastique, continue d'étonner les lecteurs d'Einstein. Quant au sapeur, ah le sapeur, n'insistons pas. Fin de citation. Eh bien si nous allons insister, nous allons parler de Christophe, c'est-à-dire de Georges Colomb, avec Pascal Lory, qui vient de préfacer, avec tout le talent de son humour, une réédition fort opportune de l'œuvre du plus joyeux des Lurons. Car notre homme est né à Lure, en Haute-Saône, ce qui explique que la mère de Camembert se soit appelée Polymnie Cancoyotte, et qu'Edgar Faure, président de la Franche-Comté, est inauguré dans cette aimable sous-préfecture le 17 juin 1979, au numéro 1 de la place de la République, la statue haute de 2 mètres de l'immortel sapeur. Actualité de Christophe, vous dis-je. Je vois surgir quelques doutes derrière vos fronts pensifs. Eh bien, vous allez voir. Et d'abord, le regard d'Yves Robert.
J'ai toujours une admiration pour les gens qui ont le sens de l'absurde. Parce que c'est un... Vous savez, mon vrai métier, c'était d'être typographe. Et il y a une expression typographique qui me trouble toujours encore, c'est, vous avez les boîtes à camembert sur lesquelles il y a une dame qui tient la boîte à camembert, sur lesquelles la boîte à camembert, il y a une dame qui tient la boîte à camembert, etc. etc. Ça s'appelle une tombée en abîme. Bon. Alors, l'absurde me semble une tombée en abîme, c'est-à-dire c'est sans fin, donc sans fond. Et il y a chez Christophe comme ça, en même temps qu'une logique absolue. D'ailleurs, je crois que l'absurde ne tient le coup que s'il y a une part de logique. Quand on lit Christophe, il y a vraiment, je ne sais pas, une rythmique, une mathématique, c'est près de l'Oulipo, je vous dis, un sens de l'absurde poétique. Voilà. Je vais peut-être trouver le vrai mot. Qui, moi, me touche beaucoup. Et puis, quand je pense que Christophe a dû faire ça pour distraire des petits-enfants, cette espèce de besoin de jouer, comme ça. Alors, Bien sûr, les fenouillards sont braves, mais ils sont bêtes, mais bêtes. Bêtes à en pleurer, enfin. Bêtes à en pleurer, et on en rit. Par exemple, il y a ces filles, quand on se penche sur un problème, on tombe dedans. Et là, tout d'un coup, eh ben, Christophe dénonce un temps qui était le sien. Mais qui faisait ça? J'allais vous dire Flaubert, d'autre part, Maupassant et d'autres comme ça. Hein. Mais qui tout d'un coup dénonçait? J'adore les gens qui dénoncent. J'adore les gens qui vous montrent tout d'un coup la bêtise. Parce que la bêtise, c'est une barricade difficile à franchir. Hein.
Pascal Horry, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
C'était donc Yves Robert. Un extrait de l'émission de Marion Thibault, Une vie, une œuvre, consacrée précisément à Georges Colomb, à Christophe, le 29 février 1996, naturellement sur France Culture. Guy Robert, qui est celui qui a mis à l'écran un film, La famille Fenouillard, en 1960. Cette idée d'absurde poétique, ce rapprochement avec Flaubert et Maupassant, est-ce qu'il est écrasant à vos yeux?
Pas du tout. D'ailleurs, je pense que Georges Colomb, alias Christophe, pouvait supporter cette comparaison. J'étais sensible au fait que Yves Robert, dont on connaît d'ailleurs le tropisme vers ce type d'humour, hein, Les Copains, qu'il a également adapté à l'écran.
Les Copains de Jules Romain.
Jules Romain, un livre qu'on ne saurait trop recommander à nos auditeurs. Peut-être un livre trop oublié, mais dont, à mon avis, le suc comique est toujours très fort.
Un compendium du canular.
Voilà, absolument. L'allusion à l'Oulipo dans la bouche d'Yves Robert est très juste. Ce sont les proches du Collège de Pataphysique qui ont assuré la survie posthume de Christophe, en particulier François Kardec. Je pense qu'il se situe effectivement dans une généalogie où on pourrait rencontrer même Lewis Carroll, parce qu'il y a des jeux de logique formelle qui n'ont peut-être pas la sophistication de ceux de Lewis Carroll, mais qui ont une efficacité comique, en particulier dans Camembert, tout à fait immédiate.
Qui, à un moment donné, devient parfaitement débridé.
Ah oui, mais la fin, par exemple, de Cosinus, pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu ou ne se seraient pas replongés depuis leur enfance dans ses œuvres...
Ils vont le faire.
Ils vont le faire, je l'espère. Eh bien, la fin de Cosinus, par exemple, c'est un déchaînement d'absurdes, mais absolument grandiose.
Je n'ai cité qu'un morceau du plaidoyer de Maître Bafouillet. Je ne résiste pas au plaisir d'en donner d'autres extraits. Il s'écrit « Songez à son pauvre père, à ce vieillard octogénaire qui a déjà un pied dans la tombe et qui, de l'autre, a toujours marché dans le sentier de la vertu. »
Oui, c'est dans la même plaidoirie qui est, je pense, encore très connue dans le milieu des avocats. Ils ont raison, peut-être que certains la connaissent par cœur, qu'il y a ce moment où il rappelle que Camembert aurait été à Austerlitz ou à Marengo. Alors on lui dit que non, c'est absolument impossible, il n'était pas même né à ce moment-là. Et il finit, poussé dans ses retranchements, Maître Bafouillet, par dire « Bon, jetons un voile sur ce passé glorieux ». Ça, j'adore cette phrase.
Le sapeur Camembert est né à Gleulélure, Saône-Supérieure. Donc, il faut d'abord rendre hommage à la Haute-Saône. Personnellement, c'est un hommage à quoi je ne me déroberai pas.
Certes, je le devine bien. Oui, Georges Colomb est né en 1856 à Lure, dans un milieu porteur, mais en même temps qui pouvait être très enfermant, puisque son père était le directeur, on dirait aujourd'hui le principal d'un collège, et on dirait d'un lycée aujourd'hui, le collège de Lure, professeur de mathématiques, auteur de manuels scolaires comme le sera son fils, donc déjà porté à la pédagogie, mais dans un milieu donc très scientifique, significativement, que l'on passera deux baccalauréats, ça se faisait d'ailleurs assez souvent à l'époque, mais quand même, d'abord un baccalauréat de lettres, qui correspondait à mon avis à sa tendance profonde, et puis il le dira lui-même après, pour faire plaisir, ou plutôt pour ne pas faire de peine exactement à papa, j'ai passé ensuite le baccalauréat de sciences. Et après, il était piégé, il est devenu un vrai savant d'ailleurs.
Normalien,
il entre à l'École normale supérieure en 1878, en même temps que Jean Jaurès ou Henri Bergson, par exemple. Et il choisit la botanique au moment où d'ailleurs les Républicains, parce que c'est un pur Républicain, c'est un homme vraiment de la Troisième République, Colomb.
Quand vous dites pur Républicain, vous entendez quoi?
C'est-à-dire qu'il est clairement anti...
Il n'y a pas d'allusion à l'actualité.
Ah, mais l'actualité de la République est permanente. Donc c'est un homme qui, élevé sous le Second Empire, a eu à souffrir d'ailleurs de la chape de l'Église catholique sur l'enseignement public. Ce qu'on oublie souvent, c'est que sous le Second Empire, l'enseignement public était contrôlé par le clergé catholique. Il en a souffert, d'ailleurs dans son hédonisme, on peut dire, puisqu'il y a des souvenirs cruels de la manière dont l'archevêque de Besançon intervenait dans les menus des cantines. Bon, à quoi ça peut tenir? Donc anticléricalisme, esprit laïque, il est typiquement radical socialiste. D'ailleurs, son fils sera député radical socialiste.
Menu des cantines, admettez que sans être obsédé par la concordance des temps, il y a quelques échos contemporains d'un autre côté.
C'est certain, c'est un bon vivant et tous ceux qui l'ont approché le confirment. D'ailleurs, physiquement, on voit bien que c'est un homme qui aime la bonne chère, qui dira de lui-même à propos du vin que bon, s'il boit peu, le vin lui est nécessaire pour ce qu'il appelle son activité cérébrale. Donc on imagine le personnage.
La chronique prétend qu'il serait mort très âgé, nonagénaire en fait. Il a vécu depuis le Second Empire jusqu'au début de la Quatrième République, jusqu'à la Libération, qui serait mort d'une indigestion de haricots, qui était plus disponible que la viande à ce moment-là.
C'est ce que dit la rumeur, c'est-à-dire que ce bon vivant a été évidemment contraint de restreindre son appétit, peut-être pas d'ogre, mais quand même, pendant l'occupation. Il a connu, heureusement pour lui, lui qui était clairement porté de ce côté-là politiquement, il a connu la libération et il l'a trop bien fêté. Bon, c'est vrai qu'il avait presque 90 ans et il aurait abusé des haricots avec ou sans mouton et il en serait mort.
C'est un vrai libre-penseur. Il y a une querelle, évidemment, tout à fait oubliée, mais fort intéressante avec Charles Péguy. L'humour était plutôt de son côté, il faut reconnaître.
Certainement, on peut penser que Charles Péguy avait beaucoup de qualités, mais pas vraiment le sens de l'humour. Il se querelle parce que Péguy est en train de glisser vers, sinon la droite pure et simple, en tous les cas, vers une critique de la gauche au pouvoir et de la gauche laïque en particulier. Il repère que Georges Colomb est associé à la mise en place d'un journal, disons, de vulgarisation d'esprit laïque. Et il se déchaîne contre lui, et on sent bien qu'il se déchaîne contre Georges Colomb et non pas Christophe, parce qu'il est aussi Christophe. Et pour Péguy, ça n'a fait pas très sérieux. Alors, il faut préciser que Georges Colomb était non seulement Dreyfusard, mais qu'il est allé assez loin dans la preuve de sa sympathie pour la famille Dreyfus, puisqu'il a été une sorte de précepteur des enfants Dreyfus. Car Georges Colomb est un pédagogue. C'est-à-dire pour ça qu'il devient dessinateur humoriste.
Pédagogue de son métier, dessinateur par goût, auteur par occasion.
Il a le sens de la formule. Hein.
Péguy lui reproche de faire des articles scientifiques qui sont en fait des pitreries faites sur ces matières. J'affirme ici que rien n'est plus contraire à la science, à l'esprit scientifique, à la distribution de la science, toujours les répétitions à la Péguy, on aime ou on n'aime pas, à la distribution de la science dans le peuple, que les pitreries dansées autour de la science. Et je ne résiste pas, Pascal Horry, à vous lire la réponse de Georges Colomb. Certaines personnes me conseillaient de vous payer de la même monnaie. J'ai bec et ongles et je crois que ce n'est pas au-dessus de mes moyens. Mais voyez-vous, à mon âge, on ne se refait plus. Il n'est pas très vieux, en fait. Bien que, selon vous, je ne sois qu'un grossier pornographe, j'ai conservé cependant assez de dignité et de respect de moi-même pour me croire plus honoré d'être parmi les insultés que parmi les insulteurs. C'est une habitude que j'ai prise pendant l'affaire Dreyfus. Vous, monsieur, vous avez changé de camp. Fin de citation.
Non, mais c'est un homme qui maîtrise la rhétorique, y compris dans les moments où on ne rit plus, quoi.
Et on peut dire, parce qu'on ne l'a pas encore fait, que le pseudonyme de Christophe, on devine bien que c'est à cause de Christophe Colomb, c'est le même principe qui fait que le philosophe Alain, qui s'appelait Émile Chartier, a choisi de s'appeler Alain à cause d'Alain Chartier, qui est un poète de la fin du Moyen-Âge.
Oui, il y a ce dédoublement qui intervient à la fin des années 1880. Georges Colomb est un excellent dessinateur. Il dessine pour le plaisir, il dessine pour sa famille, pour ses enfants. Et il va franchir le pas. Il commence d'ailleurs par être illustrateur de manuels scolaires, parce que le côté pédagogue signifie qu'il sera un très prolifique auteur de manuels. Et ce qui est extraordinaire pour l'éditeur, donnons le nom de l'éditeur, parce que c'est l'éditeur des manuels et c'est l'éditeur de Camembert, de Fenouillard, de Cosinus, Armand Colin, qui est un jeune éditeur de l'époque, très proche de la Troisième République, très proche du système scolaire, et ça correspond tout à fait à ça, eh bien, il est très intéressant pour un éditeur parce que Georges Colomb fait à la fois le texte de ses manuels et les dessins. Et puis, insensiblement, il passe au dessin d'humour, et ça marche très bien, puisqu'il dessine une famille Cornouillet qui se retrouve en 1889 à Paris pour l'exposition universelle, l'exposition du centenaire de la République. Jean-Noël, vous connaissez bien cette dimension de la Tour Eiffel. C'est un tel succès, parce que c'est ça, il y a un plébiscite des jeunes lecteurs de la presse pour la jeunesse de cette époque, ce sera principalement le Petit Français Illustré, son organe de référence à Christophe, et bien qu'on lui demande de continuer, les Cornouillets se transforment en Fenouillard, et voilà, c'est lancé.
Les quatre œuvres majeures, Rappelez-nous, Pascal Varie, les quatre œuvres majeures de Christophe.
La famille Fenouillard qui le rend célèbre, Le savant Cosinus, Le sapeur Camembert. On peut y ajouter Plic et Ploc. Dans le recueil que j'ai préfacé, on s'est concentré sur les trois premiers.
Je le regrette.
Oui, mais il fallait faire un choix. Et bon, je pense que c'est assez représentatif de trois publics un peu différents. Camembert était destiné à un public un peu plus jeune que Cosinus. Même si on peut apprécier Cosinus au premier degré, il vaut mieux apprécier aussi le second degré, les références, etc. Et la famille Fenouillard serait peut-être dans l'entre-deux. Il faut ajouter quelque chose qui s'annonçait génial, qui est resté inachevé parce que bon ben Christophe commençait à se fatiguer et puis le journal Le Petit Français Illustré a cessé de paraître, dont le héros était un baron cramoisi médiéval, et ça prenait une tournure presque frénétique, nouvelle dans l'œuvre de Christophe. Donc on conserve quelques planches qui ont été publiées grâce à François Caradec. Il faudra peut-être un jour revenir sur les aventures du baron de cramoisi.
Ah oui, le loufoque devient frénétique.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est Boris Vian qui explique à propos de la trilogie à quoi vous contribuez à redonner vie. Pascal Horry, il dit qu'au fond c'est un raccourci de la société moderne, le savant, le commerçant et le militaire.
C'est une trilogie à la Dumézil.
Alors il y a un auteur auquel Christophe doit beaucoup, c'est Töpffer. Je ne voudrais pas que cette émission se déroule, cette émission consacrée à Colomb, à Christophe, se déroule sans que nous évoquions Töpffer, qui est peut-être l'homme qui l'a le plus influencé. C'est le Genevois Töpffer, dont on doit rappeler l'œuvre également immortelle. Il y a beaucoup de procédés, de vis comica, qui viennent de chez Töpffer, de Monsieur Jabot, de Monsieur Crépin, Monsieur Cryptogame. Le premier inventeur de ces dessins accompagnés d'un texte sous-jacent, Töpffer.
Oui, d'ailleurs, Benoît Peters et Thierry Grunstein ont confirmé, document en main, qu'on peut considérer que Rodolphe Töpffer est, dans les années 1830 environ, l'inventeur de la bande dessinée. C'est déjà la bande dessinée, et j'appliquerai la même formule à Christophe, qui intervient une ou deux générations après, qui est dans la continuité, effectivement, de l'histoire en image, avec texte sous l'image, mais un texte qui joue de façon dialectique avec l'image. Par exemple, à un certain moment, le savant Cosinus se lève, saisi d'une soudaine inspiration, c'est le matin, et donc il est tout nu. Et alors, le texte dit, comme il est dans son plus simple appareil, j'ai pas osé le dessiner, donc je vous montre un petit dessin d'enfant à la place. Et c'est plein d'effets comme ça, mais extrêmement modernes. Il y a des effets nocturnes, des effets de vue aérienne. On peut dire que, aujourd'hui encore, pour les auteurs de bande dessinée, Christophe, c'est une référence.
Avec aussi des ombres, des morceaux simplement dessinés en ombres chinoises.
Ah oui, le moment où le Cosinus, l'hydre de l'anarchie, se retrouve dans la nuit. Alors évidemment, il est en train de se lancer dans ses équations, etc. Il se rend même plus compte que autour de lui, l'hydre de l'anarchie, c'est un terroriste. Les brigades centrales sont en train d'arriver, les sapeurs-pompiers. Enfin, c'est une grande émotion. Et il est là, au cœur de Paris, dans les ruines de la Cour des Comptes. Il faut traduire qu'aujourd'hui, c'est l'emplacement de la gare, donc du musée d'Orsay. Et il ne se rend pas compte qu'il déchaîne une alerte politique de degré numéro 1 par sa seule présence. Et tout est comme ça, et c'est un jeu d'ombre chinoise pratiquement. Et on a ce plaisir. La vue aérienne, quand j'étais jeune, j'avais été complètement saisi par l'audace d'une vue aérienne à une époque où il n'y a pas d'avion, donc c'est une vue aérienne de ballon dans Fenouillard, où on voit à un certain moment une seule tête se lever vers cette attraction. Alors puis ensuite, l'image suivante, il y a deux, trois têtes, puis tout le monde regarde, et puis après, il y a ceux qui n'ont pas compris, qu'il n'y a plus rien à voir, qui continuent à regarder. Bon, c'est quand même génial, là, non?
On comprend en vérité que le directeur de son laboratoire, puisqu'il était sous-directeur...
Du laboratoire de botanique de l'École pratique des hautes études, troisième section, rattachée à la Sorbonne. Oui.
C'est déjà assez fenouillardesque.
C'est fenouillardesque, parce qu'en réalité, c'était un peu ronflant. Le pauvre, justement, avait rencontré une sorte de plafond de verre. Tous ses collègues savaient que c'était aussi Christophe, et ça l'a un peu gêné dans sa carrière. Donc, il n'était que préparateur en botanique à la Sorbonne, voilà.
Eh bien, son directeur explique qu'à un moment donné, il a dû ne plus convoquer Monsieur Colomb dans les excursions botaniques, car ses plaisanteries continuelles détournaient les élèves de leurs études.
Oui, on imagine le type de collègue que ça pouvait être. En même temps, progressivement, les jeunes lecteurs, qui quand même, quand ils lisaient Le Petit Français Illustré de chez Armand Collin, ou les albums appartenaient souvent aux classes moyennes, se retrouvaient très vite ou étaient déjà au lycée, sont devenus eux-mêmes des gens d'esprit rassis, mais avec un souvenir ému. Et par exemple, j'ai fait le test, le savant Cosinus continue à être très apprécié par les savants. Je connais plusieurs physiciens qui sont capables de donner le nom complet du fameux appareil de transport de Zéphirin Briochet, donc du savant Cosinus.
Allez-y. Sans le lire ou en le lisant?
Ah bah alors, un émélectro, c'est recul, pédalie, coupe-vent, Oui, il y a Ombroso, Paracloucicle.
J'attendais que vous le disiez d'un seul souffle. Pascal Horry. Je suis légèrement déçu. Ouais, oui. Enfin, je ne le dirai à personne.
Je me le remémore par séquence. Il y a 9 séquences dans ce nom.
Il invente des mots avec uniquement des consonnes et uniquement des voyelles. Il est déjà effectivement un ancêtre de Loulipo, de Pérec et des autres.
Il y a des jeux sur les mots, jusque dans les titres. On sait qu'un des charmes de Victor Hugo dans ses romans, par exemple, dans Les Misérables, ce sont les titres. On pourrait lire des romans de Victor Hugo en ne lisant d'abord que les titres. Mais les titres des planches, alors c'est fait un titre par page, de Colomb, sont souvent d'excellentes venues. Par exemple, j'aime bien dans Fenouillard, Japonais de contrebande, c'est le titre de la page. Ou encore, dans Cosinus, de l'inconvénient de s'appeler Zéphirin. Bon. Ou alors, peut-être le plus beau titre pour moi, en tous les cas, le titre de la dernière page, la dernière planche de Cosinus, où tout le monde est sensiblement heureux et approximativement satisfait. C'est quand même très beau, non?
Ceux qui étaient satisfaits, c'était visiblement ses collaborateurs. Il était très, très, très apprécié de ses élèves, de ses amis. Et à un moment donné, enfin, il a fait longuement de la radio, nous y reviendrons tout à l'heure, et un de ses collaborateurs, plus jeune que lui d'une dizaine d'années, Paul Montel, raconte cet épisode dans Interactualité. Vous verrez que je ne me sens pas du tout concerné. C'est à France Inter, le 21 septembre 1965.
Dans la vie, j'étais un homme d'humeur égale, cherchant à mettre un grain de sel dans chacune des circonstances où on le rencontrait, très bon, très doux, très fin.
Et je suppose qu'en sa présence, vous ne deviez jamais vous ennuyer.
Je ne me suis jamais ennuyé avec lui. Une fois, j'arrive et Colomb m'offre une enveloppe qui contenait des lettres de femmes. Je lui en demandais la raison. Il avait continué à parler à la radio. Il avait beaucoup de succès. Il recevait beaucoup de lettres, particulièrement des lettres de femmes, dont la plupart étaient admiratives, mais dont certaines alliaient cette admiration à une légère tendresse. Colomb avait 10 ans de plus que moi. Il m'a dit, voilà des lettres dont je ne peux pas tirer parti à mon âge. Voulez-vous me permettre de vous les offrir? Elles pourront peut-être vous être utiles.
Comme vous voyez, Pascal Horry, c'était une autre époque.
Oui, mais c'est un homme qui savait vivre.
On a beaucoup apprécié son rôle à la radio. Il y produisait des causeries, comme on disait à l'époque. Une sorte de conférence à Radio Paris, qui était une des premières radios, qui était d'abord une radio privée, puis ensuite est devenue publique, qui a sombré un moment pendant l'occupation. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. J'ai retrouvé dans un recueil qui s'appelle Radio Paris 1930, les impressions qu'il donne devant le micro. Cet évanouissement total du public auquel il s'adresse est pour le conférencier qui débute à la radio terriblement impressionnant. Et je n'éprouve aucune fausse honte à vous avouer que j'ai été, pour ma part, très décontenancé la première fois que je me suis trouvé en face du microphone, tout seul dans une grande salle, dont les parois, parquets, murailles et même plafonds étaient recouverts de tapis épais et de lourdes tentures, éteignant toute résonance. Le studio où nous conversons, Pascal Horry, est plus plaisant et moins brutal.
Mais fondé sur les mêmes principes acoustiques, je suppose.
Le son y prend une matité telle qu'on a l'impression de parler dans une chambre sépulcrale. Je ne sais pas si vous vous sentez dans un sépulcre. Impression encore accrue par l'immobilité du microphone qui absorbe avec une impassibilité morne les paroles qu'on projette vers sa face blanche. C'est la première fois que je m'adresse directement au micro qui est devant moi.
Oui, d'ailleurs, il est très impressionné, le micro, je sens ça. Oui, il commence à travailler pour Radio Paris en 1924. C'est, en effet, comme vous l'avez dit, la principale radio dite commerciale à l'époque de France. C'est d'ailleurs la radio la plus écoutée, ce qui explique que 9 ans plus tard, en 1933, le gouvernement réussisse à racheter cette radio et en même temps le public. C'est en fait l'ancêtre de France Inter. C'est la radio du service public la plus populaire face à l'ancêtre de France Culture qui s'appelait le Poste National. Enfin, du moins, Paris Tour Eiffel et ensuite le Poste National. C'est assez logique qu'il se soit retrouvé devant un micro et que ça se soit bien passé, parce qu'il était déjà un conférencier très apprécié. Donc ce travail de vulgarisateur, mais c'est un beau mot, vulgarisateur, ce n'est pas vulgaire, c'est effectivement une activité de médiation, de transmission. Ben, il l'avait depuis les années 1880, d'abord dans la presse écrite, c'est d'ailleurs intéressant, ensuite au Collège Sévigné, un établissement intéressant parce que c'est une sorte de collège républicain qui veut former des républicaines.
Des jeunes filles.
Des jeunes filles de la bonne bourgeoisie, mais républicaines, et il sera professeur très apprécié, enfin apparemment idolâtré par ses élèves, jeunes filles. Il faut dire que sur une photo où on voit la classe qu'il a, il doit avoir 8 élèves, donc je pense que c'était quelqu'un qui pouvait travailler à fond avec ses élèves. Donc conférencier, chroniqueur dans plusieurs types de journaux, pas simplement dans le Petit Français Illustré, et puis... En effet, homme de radio, il sera même proclamé par un journal populaire de radio des années 30, prince du micro. C'est dommage qu'effectivement on n'ait plus aucune trace de sa voix à cette occasion.
Dommage que ce titre ait disparu, c'est
voilà.
Très dommage.
Tout à fait, je connais plusieurs candidats, n'est-ce pas? Et mais à l'époque, il y avait le prince des gastronomes, hein, c'était Kurnonski, c'était tout à fait dans le même esprit. Le prince des poètes, c'était Paul Fort, bon lui était le prince du micro. Et il arrête bien sûr en 39-40 et il n'a rien à voir avec le Radio Paris allemand.
Alors, puisque il a beaucoup donné à la radio le lui a rendu en offrant quelques interprétations, quelques adaptations de son œuvre. Écoutez celle-ci, réalisée par Pierre Billard et qui a été diffusée le 25 septembre 1952. Il s'agit du savant Cosinus.
Monsieur ?
Comme voulez-vous, scolastique ?
Le bon pied que vous avez demandé pour réfléchir n'attend plus que vous, monsieur.
Ah, j'arrive.
Hâtez-vous, monsieur, ne laissez pas refroidir comme d'habitude.
J'arrive, scolastique, oui. Il n'y a rien de tel qu'un bain.
Mais attention, monsieur, mais attendez au mieux que je vous avance la chaise pour vous asseoir.
Ah, vous avez raison, ma fille. Je ne prends jamais assez de précautions avec mon centre de gravité.
Là, maintenant, vous pouvez vous asseoir.
Ah, merci, ma brave scolastique. Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans vous.
Monsieur !
Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Mais voyons, monsieur, déchaussez-vous au moins avant de mettre vos pieds dans la bassine. Oh.
Tout en agitant doucement ses orteils dans l'eau tiède du pédiluve, Cosinus réfléchit. Il n'est si bon bain de pieds qui ne doivent s'achever. Cosinus, ayant saisi une serviette éponge laissée à sa portée par la prudente scolastique, se met en devoir de s'essuyer le pied gauche. Mais, réfléchissant de plus belle, Cosinus a replongé le dit pied gauche dans l'eau pour entreprendre l'essuyage du pied droit. Après quoi, de plus en plus absorbé, il vient de réintégrer son pied droit dans le bain pour essuyer de rechef le gauche, et ainsi de suite, alternativement.
J'ai besoin de vous, je ne sais plus.
Mais qu'est-ce que vous ne savez plus, monsieur ?
Scolastique, ma fille, vous qui n'avez pas d'idées préconçues, voudriez-vous, pour l'amour du ciel, me dire combien j'ai de pieds ?
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors, fidèle, cette interprétation, je dirais que c'est de Pierre Billard. Pierre Billard, qui est un grand homme de radio, c'est lui qui faisait avec Germaine Beaumont les maîtres du mystère.
Oui, c'est quand même très compliqué l'adaptation en général. Au cinéma, on l'a vu avec Yves Robert, dont peut-être l'adaptation de La famille Fenouillard n'était pas le plus grand succès. Dans ce cas précis, comme on est sur le son, on reconstitue l'image, il faut quand même donner l'équivalent du dessin qui est quand même très efficace et très rapide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque c'est un dessin des années 1890-1900. Non, c'est un dessin qui va à l'essentiel, parce que vignette après vignette, il faut reconstituer les intermédiaires. Et dans mes souvenirs, la page en question qui vient d'être adaptée à la radio s'appelle Cosinus Myriapode. C'est vrai qu'on comprend encore beaucoup plus vite. Il faut un effort supplémentaire à la radio pour comprendre le jeu sur Cosinus, qui évidemment distrait, c'est le savant distrait. Alors, on pense qu'à l'époque, Colomb a pu prendre pour modèle un certain nombre de savants distraits. Il n'en manquait pas au Collège de France ou ailleurs. Dans les Poincaré, par exemple, il y avait plusieurs savants distraits.
Pierre Curie aussi, d'ailleurs. Oui. C'est pour ça, probablement, qu'il était écrasé par un fiacre.
Oui, je pense que rien ne remplace quand même la planche de Christophe, parce qu'il y a une concentration sur une seule page. Après, on passe à un autre gag, d'une certaine façon. Il y a un fil rouge plus ou moins ténu. C'est une 6-9 vignettes. C'est très, très peu de choses.
Un gaufrier, dit-on à l'époque.
Oui, un gaufrier. L'essentiel est là. Ça va se retrouver dans Camembert, où en fait, on a des classiques de jeux de mots mis en image. Par exemple, quand Camembert prend au pied de la lettre un certain nombre d'expressions des élites. Les élites, Camembert, il est en bas de l'échelle sociale, on est à la caserne. Effectivement, on peut dire que intellectuellement parlant, il n'a pas peut-être l'agilité, par exemple, du major, etc. Un jour, le major lui dit « Mais vous n'avez pas suivi mon ordonnance, puisque Camembert a une sorte de rhume carabiné. » Alors, il va suivre l'ordonnance, mais au sens ordonnance d'un officier. Donc, il va suivre toute la journée, il va courir derrière le cheval de l'ordonnance d'un autre officier. Du coup, ça va lui donner une bonne suée, et il va être guéri. Bon, tout est comme ça. Il faut que ce soit expliqué en six vignettes, avec un texte quand même très très court, très condensé, qui ne doit pas être incompréhensible pour des jeunes qui, certes, bon, sont issus de la bonne bourgeoisie de l'époque, mais enfin, qui ont quand même, j'irais, 12 ans. Et c'est très bien parce que, heureusement, nous avons tous 12 ans d'âge encore aujourd'hui.
Mais vous, Pascal Auric, aimez tant la bande dessinée, vous en êtes fait l'historien pour la période contemporaine. Est-ce que vous diriez, vous parleriez de la modernité ou de la désuétude de cette expression de Christophe?
Martin Véron, le grand dessinateur d'aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur d'ajouter un avant-propos personnel à cette réédition, montre bien que quand il a été l'objet d'un, tout jeune, à 8 ans je crois, d'un cadeau qui consistait effectivement à lui donner, je crois que c'était la famille Fenouillard, enfin peu importe, un des Christophe, et ensuite il était tellement enthousiaste qu'il a continué. Il a d'abord été, on est dans les années 50, début 60, il a d'abord été choqué parce qu'il considérait ça comme très obsolète, en effet, même s'il ne connaissait pas le mot. Et puis, en se plongeant dedans, il a découvert l'exotisme aussi de ça. C'est-à-dire que le fait que ce soit un gaufrier, que le texte soit sous l'image, aujourd'hui, c'est plutôt un élément d'excitation. C'est comme si on était devant un exercice où le dessinateur se serait refusé à la bulle.
Pas de phylactère.
Voilà, il faut presque inverser la formule. Et puis, c'est quand même très très efficace, avec des moments même, en termes de comique, qui vont assez loin, presque jusqu'à la critique sociale, voire philosophique. Moi, j'avais été très frappé en tant qu'enfant, je témoigne comme Martin Véron, de mes lectures quand j'avais, je sais pas, 10-12 ans. Le dentiste Max Hiller, bon, déjà, qui, par une série de hasards, parce que c'est complètement fou, il y a une série de hasards, hein, il faut quand même penser que Cosinus veut faire le tour du monde, lui, et il ne réussira jamais à sortir des frontières de Paris, parce qu'il y aura toujours un obstacle. À l'inverse, la famille Fenouillard veut aller simplement à Paris et fait le tour du monde malgré elle. Eh bien, Max Hiller, par une série de circonstances, se trouve pris pour un dingo. Donc, il est enfermé. Et il y a quand même une page, mais qui fait froid dans le dos.
Parce ficelé, que complètement ficelé dans un commissariat de police.
Et alors, comme il est de plus en plus énervé, on le prend de plus en plus pour un fou, et on le rend fou. Parce que quand même, c'est écrit en 1890 et quelques. On le rend fou en l'enfermant avec les fous, et quand il est complètement fou, on le libère. mais c'est extraordinaire quand même.
Il y a aussi toute une réflexion sur ce qu'à d'autres, plus tard, on a appelé l'effet de l'aile de papillon, un tout petit mouvement qui a des conséquences énormes. Et là, il suit Topfer, vous savez. Topfer qui avait montré dans Monsieur Pincile le chien qui était tombé sur un bras de télégraphe. Alors son maître grimpe pour le secourir et il transmet involontairement des messages qui sont inquiétants. Il provoque une énorme crise internationale.
Oui, c'est le même principe chez Fenouillard et chez Cosinus. Chez Cosinus, il y a d'ailleurs un chien qui joue un rôle important, sphéroïde, etc. Vous avez, d'ailleurs c'est un clin d'œil à ses collègues, vous avez un certain nombre de savants qui sont troublés parce qu'ils aperçoivent par exemple dans le ciel des comètes étranges. En fait, là ça peut être la famille Fenouillard ou dans un autre cas, ce sera Cosinus, qui déclenche une perplexité dans les hautes sphères. De fil en aiguille, on en arrive à des conséquences, on en fait parfois politiques.
Et quand les Fenouillards sont chez les papous, on dit qu'il dort comme un loir, et se réveillant, Monsieur Fenouillard dit « Et le loir est cher !» Et aussitôt, les papous se mettent à rire, après comme il est devenu provisoirement le roi, il faut toujours rire quand le roi rit, ou veut faire rire, et de proche en proche, ce rire énorme finit par déclencher des phénomènes météorologiques.
Et même une éruption volcanique.
Absolument épouvantable. Je ne sais pas si dans notre conférence COP21, on sera soucieux, on est soucieux de ce genre de conséquences.
Je crois pas. On sera trop sérieux.
Même si je recherche la modernité, là, je crois que je fais chou blanc, non?
Vraisemblablement. De la même façon, évidemment, il joue avec les stéréotypes ethniques et nationaux, faut le dire. À l'époque, ça allait de soi. Mais assez subtilement quand même. Par exemple, il se retrouve au Japon. Il est vraiment complètement décalé, un peu comme plus tard, d'ailleurs, Hergé s'en est inspiré, les deux Dupont, qui sont complètement décalés, qui se déguisent en chinois à l'ancienne dans la Chine des années 30, etc.
Pour ne pas être repéré.
Voilà. On a un peu la même chose déjà à l'époque de Fenouillard. Entre parenthèses, Christophe est l'auteur d'une formule dans laquelle il dit qu'il s'adresse aux enfants de 5 à 95 ans. Donc c'est encore plus large que Hergé. Donc Hergé s'est inspiré de Christophe. Et donc, à un certain moment, la famille Fenouillard, j'allais dire déguisée à la japonaise, alors qu'il y a des japonais modernes, et d'ailleurs habillés à la moderne, enfin disons à l'occidentale, et Christophe n'oublie pas de le dire, se retrouve devant un spectacle. Et en fait, c'est la réception de l'empereur, du joli cadeau. Et Fenouillère croit que c'est un comédien et se met à l'insulter. Enfin bon. Donc, ce n'est pas un regard condescendant et raciste. C'est simplement la recherche de l'effet comique, même dans des situations qui sont des situations d'exotisme. D'ailleurs, ce que j'ai redécouvert en me replongeant dans ces ouvrages-là, c'est que Camembert, à un certain moment, se retrouve quand même dans les colonies à combattre quand même des dissidents, ça se faisait beaucoup à l'époque, il y a beaucoup de romans, de films qui le racontent, et il adoptera un enfant. Et on peut se demander si cet enfant n'est pas un Kabyle quand on regarde l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est un personnage qui réussissait à ne pas sombrer dans les formes les plus déplaisantes du comique, parce qu'il faut savoir que le comique peut être extrêmement déplaisant quand il attribue, par exemple, à des catégories sociales ou ethniques des caractéristiques négatives. Ben, Christophe frôle ça, mais jamais n'y tombe.
Avec quelque chose qui est alors là très très contemporain, c'est-à-dire l'usage au service du comique du stéréotype, comme vous le disiez, puisqu'au fond, tout Astérix est fondé sur le stéréotype et son succès. On trouve déjà ce genre de ressort, ce genre de procédé chez Christophe.
Oui, d'ailleurs Camembert, dont j'ai constaté que c'était des trois grandes œuvres canoniques, celle qui était la plus appréciée par les grands humoristes du Xème degré, en particulier le Collège de Pataphysique, a toujours mis d'abord Camembert au-dessus de la pile. Camembert, c'est quand même du comique troupier au départ. Donc c'est aujourd'hui relativement désuet. Et en même temps, c'est un jeu sur le langage qui est ultra moderne. C'est-à-dire que, j'allais dire, le nouveau roman pourrait être de plein pied avec certaines des pages de Camembert. Ça a d'ailleurs été le cas.
Par exemple,
prendre au pied de la lettre, je signalais à propos de l'ordonnance, mais reprendre un certain nombre de termes que d'ailleurs Camembert déforme ou que c'est supérieur déforme, c'est vraiment un jeu avec le langage qui suppose que le langage, c'est en fait l'univers. Dans un premier temps, on dit « Ah, oh, c'est quand même peut-être un petit peu facile et lourd », et puis le caractère répétitif impressionne.
Eh bien voilà le témoignage de l'influence que Camembert a pu avoir sur une personnalité éminente qui était liée familialement à Christophe, Agnès Rosenstiel, qui évoque le sapeur Camembert dans Une vie, une œuvre de Marion Thibas. Nous sommes le 29 février 1996. Le 29 février, ça n'est pas par hasard, puisque naturellement, Camembert étant né un 29 février, il n'avait que 4 ans, alors qu'on croyait qu'il en avait 16.
Tout à fait, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a un périodique qui ne paraît que tous les 29 février, qui est la bougie du sapeur, en l'honneur du sapeur Camembert.
Alors, je lisais ça tout à mes frères. J'arrivais pas à finir la lecture tellement je riais, ils me regardaient rire, c'était inouï, je me rappelle ces séances de lecture, parce que justement on lisait ça tout, nous. Et l'histoire du trou qui est pas assez grand pour reprendre la terre du trou et puis la terre qui était à mettre dans un trou, ça c'est quelque chose qui me plongeait quand j'étais enfant. C'est l'aporie, quoi, le truc impossible. Ah, c'était vraiment un déchaînement de rire dans la maison, je sais pas.
Attendez, où est-ce qu'il doit faire un trou?
On ne pense pas à tout.
On ne pense pas à tout. L'adjudant-major interpelle le sergent Biture. Rien que ça, c'est... Signifie, sergent, ce tas d'ordures dans la cour de la caserne. Si dans une heure ça n'est pas enlevé, je vous ferai savoir comment je m'appelle. Biture fait venir Camembert. « Sapeur, lui dit-il, je vous imprime l'ordre de creuser un trou pour à seule fin d'y mettre ses ordures et autres, sinon je vous ferai un peu voir comment je s'appelle. » Camembert, qui ne tient pas à savoir comment s'appelle le sergent Biture, a creusé un trou et y a délicatement déposé les ordures. Puis il demeure perplexe. « Oui, se dit-il, mais maintenant, la terre du trou, où ce que je vois la fourrer ?» « Sergent, interroge Camembert, et la terre du trou ? Que vous êtes donc plus hermétifiquement bouché qu'une bouteille de limonade, sapeur ! Creusez un autre trou ! » !»« C'est vrai, approuve Camembert. » Camembert creuse donc un deuxième trou et y dépose la terre du premier. Puis il redevient perplexe. « Oui, mais la terre de ce deuxième trou, se redit-il. Qu'est-ce que j'en vais faire ?» « Sergent, réitère Camembert, où est-ce que je vais la mettre, celle-ci ? Espèce de double mulet cornu, me ferait 4 jours pour n'avoir pas creusé le deuxième trou assez grand pour pouvoir y mettre la terre, sa terre avec celle du premier trou !»
Alors, Scalery. Actuelle ou pas actuelle, l'histoire des trous?
Oui, je ne vais pas concurrencer les physiciens. On peut remonter en effet à Lewis Carroll et à cette logique qui veut que quand on est devant un problème, si on ne comprend pas le problème, on l'aggrave d'une certaine façon. Et là, il n'y a pas de solution d'ailleurs au problème du trou. Il n'y a pas de solution à l'intérieur des termes qui ont été posés par les autorités. C'est-à-dire que les autorités se trompent, mais les autorités peuvent être scientifiques. C'est pour ça qu'il y a les quantas. Et les quantas, c'est une manière de dire, mais écoutez, il pourrait y avoir un autre type de règles du jeu. La géométrie non euclidienne paraît un jeu de société au début du XXe siècle, et on s'est rendu compte qu'une partie de l'univers fonctionne de manière non euclidienne. Ça nous renverse complètement. Ces artistes, et puis ces gens doubles, Lewis Carroll est quand même un savant qui écrit les chefs-d'œuvre que l'on sait, Alice au Pays des Merveilles, etc., La chasse au Snark. Et à son niveau, Colomb est quand même un savant qui connaît la mathématique, qui connaît les sciences naturelles, dont il se rend compte assez vite qu'elles sont très culturelles et très artificielles, et heureusement, il joue avec ça. Il sait très bien de quoi il est question, y compris en termes de logique formelle. Une autre page célèbre de Camembert, où là aussi on est dans une hiérarchie d'ordre, et ça finit par arriver, alors non, même pas à Camembert, mais à Canquerlat, qui est encore plus bas de l'échelle, et qui doit couper des rondins en commençant par un certain bout. Alors il commence à les couper, à les scier, et puis il arrive au milieu du travail, il est accablé, mais et il repose la question à Camembert de savoir si c'était la bonne consigne, et l'autre l'engueule parce qu'il a commencé par le mauvais bout. Tout est comme ça.
D'ailleurs, Queneau, dans le texte que je citais tout à l'heure, évoque la modernité de Cosinus. On n'est plus chez Camembert, mais chez Cosinus. E égale zéro.
Il y a ce jeu sur le tableau noir à plusieurs reprises, y compris, bon, ça c'est un classique, mais c'était pas si classique avant que Christophe ne l'ait dessiné et mis en bouche, en quelque sorte. Cosinus, c'est un surnom qu'il a reçu à l'époque, Cosinus, puisqu'il s'appelle Zéphirin Brioché, ce qui est encore mieux. Et Cosinus qui essuie le tableau avec son mouchoir, qui se mouche dans le chiffon. Mais c'est vraiment l'introduction à tout ce qui va lui arriver. Il n'arrête pas de se moucher dans le chiffon, quoi.
Vous le disiez bien, Pascal Horry, il y a le thème du voyage, du départ, aller ailleurs, rêver d'aller ailleurs, ne pas y parvenir. Je vois que Jean Cocteau avait affirmé que faisant son propre voyage en 80 jours, il a été inspiré par le souvenir de la famille Fenouillard. Il est parti le 28 mars 1936 à 22h20 et il écrit « Dès le départ, nous devions prendre le rythme des familles Perrichon, ça c'est la biche, et Fenouillard ». C'est notre cher Christophe, de messieurs Vieux-Bois et Cryptogame, Topfer. Ces personnages de Topfer et de Christophe, plus encore que ceux de Jules Verne, furent à l'origine de cette poésie aventureuse qui nous habite depuis l'enfance et nous met le diable au corps. Et Cocteau ajoute, le vrai Japon, c'est Madame Fenouillard et ses filles, grisant les gardes pour délivrer leur époux épais en crevant la cloison de papier. Car les enfants rêvent sur ces épopées burlesques, ils les déforment à leur usage et y puisent les éléments des féeries profondes. On peut en croire Jean Cocteau.
Je note que Cocteau, qui est encore plus légitime qu'Yves Robert sur ce terrain, parle de poésie comme Yves Robert. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'absurde qui confine à la poésie. Au fond, il y aurait sans doute toute une théorie à développer sur ces artistes qui avaient une vraie compétence scientifique, qui ont développé la poésie de l'érudition. Par exemple, Borges, c'est la poésie de l'érudition. Donc il y a une manière de faire sauter les frontières entre, je dirais, la science et l'art. Et c'est très clair chez Christophe. Je suis sensible aussi au fait que Christophe, écrivant pour les enfants, écrit donc pour de futurs adultes comme Cocteau, comme Yves Robert, comme François Caradec, comme moi, comme Martin Véron. Ces adultes, je pense Jean-Noël Jeannet, si je peux me permettre... mais je n'ose pas.
Courage, courage.
Et donc, je pense que ces futurs adultes conserveront, quand ils sont adultes, une grande sympathie à ce travail d'initiation de ces personnages qui s'appellent effectivement Carole, Lewis ou Christophe, parce que ce sont de grands initiateurs. Et entre, je dirais, 7 et 12 ans, c'est capital, on est marqué à vie.
Christophe commence de dessiner et d'écrire lorsqu'il a un fils. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose de Jean de Brunhoff, auteur de l'immortel Babar, qui s'est lancé sur ce chemin-là que lorsqu'il a eu même des enfants.
La version la plus ambiguë étant celle de Lewis Carroll, qui avait des amis, jeunes filles, petites filles, et qui a commencé à raconter des histoires pour ces petites filles-là, et à les prendre aussi en photo, mais ça, c'est une autre affaire.
C'est un autre sujet, nous ferons une autre émission, peut-être, j'en suis pas absolument sûr. Il vit, notre personnage, Christophe, parmi des amis qui sont tous des adeptes du canular dont nous parlions tout à l'heure.
Il est contemporain, Christophe, et certainement lecteur, auditeur, etc., du Chat Noir, des Hydropathes, d'Alphonse Allais. Et d'ailleurs, le grand biographe auquel je rends hommage au début de ma préface, François Caradec, était également le grand biographe d'Alphonse Allais, le grand éditeur et de Christophe, y compris des quasi-inédits de Christophe, comme le Baron de Cramoisy, et des inédits et des non-inédits d'Alphonse Allais. Dans l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un moment où on a redécouvert avec passion cet humour 1900.
Eh bien, c'est dans ce terreau que s'enracine le texte que je vais vous faire entendre. C'est une lettre d'Onésime Billantoc, qui est lue par Jean-Luc Maxence, qui était d'ailleurs le petit-fils de Christophe, en restant famille, qui est tiré d'un excellent documentaire pour la télévision de Dominique Garin et Jean-Baptiste Benoît, un documentaire qui remonte à 2011. Écoutez.
En voyant de faibles femmes danser toute une nuit avec une vigueur et une énergie dignes d'une meilleure occupation, n'avez-vous pas gémi sur la force énorme qui se trouvait ainsi dépensée inutilement? J'ai cherché à mesurer cette force, et pour cela j'ai fait danser pendant une heure le couple mitouflet scolastique sur un large plateau de bois surmontant un dynamomètre enregistreur de mon invention. J'ai pu constater que ces deux intéressants serviteurs de notre ami Cosinus avaient pendant ce laps exécuté un travail de 3243 kilogrammètres et une fraction, c'est-à-dire qu'ils avaient développé une force capable de soulever un poids de 1 kg à 3243 mètres de hauteur, presque aussi haut que le pic du Midi. Les physiciens ayant cru devoir nommer volt l'unité d'électricité, j'ai pensé que j'étais autorisé à prendre comme unité de travail densatoire ce nombre de 3243 kilogrammètres et à l'appeler une mitoufle. Il résulte de là qu'un couple de poids moyen dansant pendant une heure produit un travail d'une mitoufle. Par conséquent, 25 couples, se trémoussant en cadence pendant 8 heures, déploieront 25 multiplié 8 égale 200 mitoufles. Je construis donc une salle de bal à plancher flexible et élastique. Une barrière oblige tout le monde à danser au centre de la salle. Sous l'action combinée des mouvements rythmés des danseurs, le plancher s'affaisse puis se relève. Sous le plancher, une double crémaillère à déclic ou une paire de bielles fait tourner une roue dentée qui communique un mouvement rapide de rotation à une dynamo, laquelle, grâce aux nombreuses mitoufles produites, devient à son tour capable de fournir une quantité d'électricité suffisante pour éclairer non seulement la salle mitouflogène, mais encore tous les lieux circonvoisins. Voilà, illustrissime ami, l'idée que j'avais à faire approuver par votre haute compétence, dont je m'honore d'être un des plus sincères admirateurs. À vous tous d'amitié, Onésime Billantoc.
Sous la forme du dérisoire, de l'ironie, on trouve secrètement un hommage à la science qui est très lié à cette génération et d'ailleurs indirectement une distance par rapport à la religion chez ce libre penseur qu'est Georges Colomb.
Oui, il faut préciser donc qu'Onésime Billantoc était le pseudonyme qu'il utilisait dans ses dialogues avec Henriot avec Robida, donc ces dessinateurs qui se transformaient en bons écrivains. On voit bien le côté pataphysicien, d'ailleurs il faut quand même prononcer le nom d'Alfred Jarry, contemporain, parce que ce système donc signé Christophe, on imaginerait très bien que ce fût un système signé Jarry, Faustrol, etc. Quant à effectivement ce rapport à la science, bon, il est consubstantiel. Clairement, Colomb est un scientiste, dirait-on, sauf que les scientistes eux-mêmes s'appellent jamais scientistes. Ce sont leurs adversaires, comme Peggy, par exemple, justement, qui pourraient les attaquer sur ce plan-là.
Ou comme Brunetière, à l'époque.
Oui, voilà, effectivement. Les eux sont simplement des gens qui pensent que il y a une méritocratie républicaine qui passe par l'école. Donc, franchement, Christophe est né, a grandi dans un collège, ensuite a enseigné à la Sorbonne et dans un collège à la fois privé et tout à fait républicain, le collège Sévigné. Donc, il est un pur produit du système scolaire. Voltaire, il le reproduit en étant lui-même un excellent transmetteur, vulgarisateur, professeur, conférencier, tout ce qu'on veut. Et il est très fier aussi de rappeler, dans l'une de ses chroniques radio, justement, de Radio Paris, qu'il a été de ses privilégiés qui, quelques semaines avant la première projection publique, ont vu le cinématographe Lumière, hein, qui a été projeté en Sorbonne, il faut le préciser, quelques semaines avant la projection publique. Donc c'est un homme qui croit au progrès et qui a quelques raisons d'y croire, d'ailleurs. Par ailleurs, c'est en effet un laïc, et ça se voit tout simplement dans le fait que l'ensemble de ses gags, disons, ignore la religion. C'est-à-dire qu'on ne se moque pas de la religion. C'est quelqu'un qui a plutôt la réputation d'être, sinon, entre guillemets, un bouffeur de curé, en tout cas quelqu'un qui sait se moquer du fanatisme religieux. Bon, c'est un radical socialiste, un ratsoc, mais en même temps, il préfacera, sur le tard, il préfacera le livre d'un de ses amis, j'allais dire d'un de ses copains prêtres, mais qui est un copain prêtre assez rabelaisien, au fond. Donc, il sait reconnaître chez un clerc la qualité humaine qui va au-delà des apparences. Et puis, c'est quelqu'un qui est à la fois de son temps, et ça pourrait paraître obsolète, et puis aux dernières nouvelles, ça ne l'est plus guère, qui est clairement patriote, d'un patriotisme qui va avec le culte de la République, parce que effectivement, c'est quelqu'un qui sait bien que le drapeau tricolore, la Marseillaise, ça vient de la gauche, quoi. Donc là, je crois qu'il y a une actualité qui est redonnée à Christophe. Il faut signaler aussi que la famille Fenouillard se retrouve, malgré elle, comme toujours, aux États-Unis et se trouve confrontée. Alors ça, c'est quasiment une lecture de Tocqueville. Je ne sais pas s'il avait lu Tocqueville, mais c'est grosso modo du Tocqueville en trois pages, quoi. Il se retrouve dans la confrontation d'une démocratie violente et populiste d'une certaine façon, et ils sont pris en otage par plusieurs camps au moment d'une élection. C'est l'image qu'on avait d'ailleurs à l'époque des États-Unis, de la démocratie en Amérique, mais c'est quand même intéressant de voir ça devenu un objet de gag. Donc, quand on regarde d'un peu près, mais sans se forcer, les histoires drôlatiques de Christophe, on se trouve confronté à de vraies questions touchant à la politique, à la société, voire à la religion.
C'est déjà teinté en Amérique ?
Oui, d'une certaine façon. Il faut pas minorer l'importance de ces médiateurs que sont Hergé ou Töpffer ou tant d'autres. C'est-à-dire que en même temps, comme ils sont quand même lus par un assez large public, même un grand public, à l'échelle de 1900, c'est un grand public, hein, le petit français illustré, un public qui va donc voter plus tard, qui va construire sa vie sur un certain nombre de valeurs, bah, ces auteurs-là contribuent à la construction des valeurs. Et pour ce qui est de la France de la Troisième République, je pense qu'il est absolument raccord. Il est au centre du centre du centre de ce qu'est la culture républicaine. Alors là aussi, la culture républicaine, il y a peut-être 20 ans, ça paraissait extraordinairement obsolète, comme le dessin, la mise en page de Christophe. Et maintenant, je crois qu'on en sent toute l'actualité.
L'idée qu'il se fait de la société de son temps, qu'en diriez-vous ?
Prenons les Fenouillards, il y a quand même une tradition de la mise en boîte, comme on disait à l'époque, la mise en boîte du bourgeois. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez Colomb, dont on peut dire qu'il, évidemment, il participe de cette bourgeoisie-là, mais c'est une bourgeoisie un peu à l'écart. Fils de principal de collège, c'est pas fils d'entrepreneur, par exemple. Il a un regard quand même, alors sinon acide, du moins distancié à l'égard du conformisme. Quand même, Fenouillard est un conformiste, c'est un conformiste impérieux, phraseur. D'une certaine façon, je répète, c'est destiné quand même à des enfants de 8, 12, 14 ans. Il sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Il n'est pas en train de brandir le drapeau rouge. Ça lui était très peu étranger, c'était vraiment le drapeau tricolore pour Christophe, mais clairement il y a une mise à distance par rapport d'abord donc Camembert, c'est très impressionnant par rapport à l'autorité et même une façon de prendre ses distances à l'égard de cette autorité qui est assez étonnante. Il y a quand même quelque chose qui va assez loin dans cette remise en cause de l'ordre, hein. Il y a une cascade d'ordres qui aboutissent à des résultats catastrophiques. Même à la fin, on voit un de ces personnages qui est un officier supérieur qui prend sa retraite et qui ensuite consacre ses loisirs à essayer d'expliquer pourquoi on a été battu en 70. Oui, c'est quand même très très ambigu. Et puis en ce qui concerne donc Fenouillard, il y a l'idée quand même que l'autorité paternelle, côté ronflant du personnage, tout ça, ça le rend ridicule. Il n'est pas en train de dire descendons dans la rue, brûlons tout, mais il est en train de dire écoutez, faisons la part des choses. Je trouve que c'est une situation assez équilibrée d'ailleurs, mais bon.
Il faut que nous évoquions alors une question qui est redevenue brutalement d'actualité sur le mode plaisant, c'est la question de la dispute sur le lieu où était Alésia. Puisque Georges Colomb s'est beaucoup engagé dans la défense de l'idée que Alésia aurait été Alèze, un village dans le département actuel du Doubs, hein, et non pas Alice Saint-Reine, promue en Bourgogne par Napoléon III notamment, qui semble aujourd'hui effectivement être plus vraisemblablement Alésia, sur le mode plaisant, on dit ces jours-ci, puisque la Bourgogne et la Franche-Comté se trouvent réunies en une seule région, certains vont jusqu'à dire que la vraie pomme de discorde demeure celle-ci, c'est-à-dire d'un côté vive Alèze et de l'autre vive Alésia. On retrouve un peu d'anticléricalisme d'ailleurs, puisque certains se sont moqués du propos en disant que Colomb allait répétant « Tumulus vobiscum ».
Sous le nom de Colomb, Georges publie un ouvrage posthume chez Fayard, Maison Honorable, et qui est un ouvrage d'histoire qui se veut érudit, qui tente à démontrer que Alésia ne se trouvait pas donc en Bourgogne, mais en Franche-Comté. Ce n'est pas Alice Sainte-Reine, c'est Alèze, aujourd'hui inclus, je crois, dans la commune d'Éternoz. Sa démonstration peut être suivie sur un certain nombre de plans, parce qu'à l'époque, les fouilles archéologiques n'ont pas progressé comme elles ont progressé par la suite. Mais enfin, il est déjà très, très minoritaire. Le patriotisme franc-comtois l'a clairement aveuglé. Il est récompensé de son vivant puisqu'il a droit à un buste. Dans les années 30, on a des photographies de l'inauguration du buste de Colomb à côté du Colomb en chair et en os, c'est le cas de le dire, en chair. Dans
1934.
Son cas. Voilà. C'est essentiellement, effectivement, le patriote franc-comtois qui défend l'hypothèse franc-comtoise de l'emplacement d'Alésia. Et un autre franc-comtois illustre qui s'appelle Lucien Febvre.
Oui, hélas, l'a contredit.
L'a contredit dans les annales, il l'a contredit après sa mort. Mais d'ailleurs, Lucien Febvre qui dit, grosso modo, que quand Colomb défend cet emplacement, il est moins convaincant que quand il écrit les facéties du sapeur Camembert, mais Lucien Febvre fait une erreur, il écrit Camembert avec un T. Enfin, c'est un règlement de compte entre franc-comtois. Vous l'avez rappelé, Jean-Noël Jeannet, les deux Bourgognes sont désormais réunies. Depuis le Moyen-Âge, on n'avait pas vu ça.
D'ailleurs, dans la famille Fenouillard, de façon prémonitoire, Vercingétorix est déjà présent, puisque Fenouillard le cite en disant, comme disait Vercingétorix, « Impossible n'est pas français ».
Oui, oui, on est dans le comique qui consiste à quand même dégonfler le pédant, dégonfler le professeur d'une certaine façon. Moi, je trouve assez sympathique que ce soit.
Vous trouvez sympathique de dégonfler les professeurs?
Oui, qu'un professeur dégonfle les professeurs. Vous me direz, c'est peut-être pervers, ça permet à ce professeur de rester en dehors du dégonflage. Mais moi, je voudrais quand même citer, c'est au début de Cosinus, cette phrase qui est presque signée d'un libertaire. L'évidence qu'il est sage d'avoir la plus grande déférence pour les règlements en général et pour ceux qui sont contradictoires en particulier. Hein. Il montre aussi combien il est prudent de témoigner le respect le plus profond à tous ceux qui détiennent une part de l'autorité, depuis le pygmée jusqu'au géant, du ciron jusqu'à la baleine, du roitelet à l'aigle, du ministre à monsieur le concierge. Ça, c'est une phrase qui, dans son apparent conformisme, évidemment, introduit le ver dans le fruit. C'est une phrase de libertaire, à mon avis. Je ne sais même pas s'il en était conscient, mais ça va très loin.
Vous voulez dire que de ce ver, nous pouvons faire notre miel?
Tout à fait, comme dirait Maître Bafouillet.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal Horry. L'album réédité, excellent cadeau de Noël, que nous avons célébré aujourd'hui en parlant de Christophe, de Georges Colomb, s'appelle l'album Christophe, Fenouillard, Camembert, Cosinus, présenté par vous, Pascal Horry, avec un avant-propos de Martin Véron, vous le disiez. C'est naturellement Armand Collin, éditeur historique, qui le propose. Vous avez dirigé, avec Laurent Martin, Sylvain Venère et Jean-Pierre Mercier, l'art de la bande dessinée. C'est un très beau livre, qui, bien que très cher, est sur le point d'être épuisé, donc on va sûrement le rééditer. L'éditeur est Citadel et Masno, 2012. Et puis, nous avons fait fond, vous et moi, sur la puissante biographie de Christophe, due à François Caradec en 1981, qui a contribué à lui redonner une présence, une force. Christophe, le génial auteur d'immortels chefs-d'œuvre, le sapeur Camembert, la famille Fenouillard, le savant Cosinus, et c'est là que Raymond Queneau avait donné une préface.
François Caradec, qui était un pilier de l'émission Les Papous dans la tête de France Culture.
Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été diffusée une première fois le 28 novembre 2015. La semaine prochaine, nous rediffuserons une émission intitulée « La fin du monde par la science, genèse d'une angoisse » avec Jean-Baptiste Fressoze. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec l'appui précieux de Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec à la prise de son, comme souvent, Bruno Gagnère-Fontanille, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Étienne Klein pour la conversation scientifique.